France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Et merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements, des lieux à connaître sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, alors on a voulu s'intéresser à un événement qui se déroulera le 13 mars prochain, la remise des Césars des lycéens dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Mais c'est surtout une occasion formidable pour en savoir plus sur ce lieu qui rayonne dans le monde entier, ce nom qui rayonne dans le monde entier, Sorbonne. Quelle est l'histoire de la Sorbonne? Qu'est-ce que la Sorbonne aujourd'hui? Quel est son avenir? C'est son but? Ses buts? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec le président de la Fondation Sorbonne Université, Monsieur Barthélémy Jobert. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'être là aujourd'hui. Alors avant de parler du lieu, du bâtiment que tout le monde connaît dans le quartier latin, moi je voulais qu'on revienne sur ce terme générique. Vous êtes le président de la Fondation Sorbonne Université. Vous savez que pour tous ceux qui nous écoutent, moi en premier, la Sorbonne, je sais où ça se situe et je sais à peu près ce à quoi ça correspond. Je me dis, grande université parisienne. Mais aujourd'hui, c'est plus que cela. Alors, la Fondation Sorbonne Université, ça représente quoi, Monsieur Jobert?
La Fondation Sorbonne Université, elle va avoir 10 ans, puisqu'elle a été créée en août 2009. Non pas à Sorbonne Université, mais à ce qui est devenu une des composantes de Sorbonne Université, qui était l'université Pierre et Marie Curie,
oui,
qui était la première université française en sciences et ingénierie et en médecine. Cette université, dans les deux dernières années, a fusionné avec celle dont j'étais alors le président, l'université Paris-Sorbonne, qui elle était la première université française en lettres et en sciences humaines et sociales, et pour fonder Sorbonne Université, qui est aujourd'hui la première université française et la seule à Paris à être autant pluridisciplinaire, c'est-à-dire à allier les lettres, les sciences, l'ingénierie, la médecine, à la fois pour la formation et pour la recherche. C'est cette université qui revient, qui recrée d'une certaine manière le projet initial de ce qui n'était pas la Sorbonne, mais l'université de Paris, créée en 1215. Donc vous voyez, nous avons presque plus de huit siècles d'histoire derrière nous.
Alors aujourd'hui, Sorbonne Université, on pourrait dire les universités, parce que c'est plusieurs lieux d'études à Paris, en région parisienne.
C'est une seule université, mais c'est plusieurs facultés. Alors il y a d'autres universités à Paris. Il y a l'Université de Paris qui est en cours de formation, qui sera une grosse université médicale avec également des sciences, un peu de sciences et des lettres, mais avec moins d'équilibre peut-être que nous. Il y a également des universités qui restent ce qu'elles sont. Je pense aux universités de droit notamment, qui pour l'instant ne sont pas rentrées dans ce processus de fusion ou de rassemblement avec d'autres universités pour refaire une université qui soit, je dirais, de rang mondial, c'est-à-dire qui puisse concurrencer, qui puisse rivaliser ou qui puisse s'intégrer dans des réseaux, nous venons d'en créer un, avec des universités en Europe et dans le monde qui, elles, sont toutes sur ce modèle pluridisciplinaire que la France avait abandonné après 1968.
Donc ça c'est fait, après 1968. Eh ben on va revenir un tout petit peu en arrière, vous disiez à l'instant que la Sorbonne Université avait 800 ans, parce qu'effectivement ce lieu qu'on connaît tous dans le quartier latin a été créé, je crois, donc au 12e siècle. Est-ce qu'on peut dire un petit peu comment est né ce lieu? Je crois que c'est à l'époque de Saint-Louis.
Alors il y a eu, c'était avant Saint-Louis, c'était sous Philippe Auguste, il y a eu donc la création d'une université à Paris qui était en fait une faculté de théologie, c'était à ce moment-là la discipline la plus importante, qui a été créée en deux temps, reconnu par le roi, puis surtout reconnu par les autorités pontificales, ça c'est 1215. Cette université qui est en fait la seconde qui a été créée en Europe, après la première, notre mère à tous, qui est l'université de Bologne en Italie. Cette université est très vite devenue, le royaume de France était le royaume le plus important à l'époque, un lieu de formation pour l'Europe entière. Et se sont créés ainsi des collèges, sur le modèle de ce qui existe aujourd'hui en Angleterre avec les fameux collèges d'Oxford ou de Cambridge, donc des collèges qui rassemblaient soit des nationalités, alors il y avait le collège des Irlandais, le collège des Suédois, le collège des Allemands, etc. Et puis également des collèges qui étaient patronnés par des ordres religieux. C'est comme ça qu'il y a eu le collège des Bernardins, des moines cisterciens qui restaient aujourd'hui dans le bâtiment, et d'ailleurs le seul aujourd'hui qui reste de cette université du Moyen-Âge. Et puis il y avait l'université de Paris, Dans ces collèges, il y en a un qui est devenu très vite très prestigieux, qui était le collège fondé par un prêtre qui s'appelait Robert de Sorbon, alors qui lui a été fondé un peu plus tard, alors en 1253 exactement, mais les premiers étudiants ne sont arrivés qu'en 1257. Et c'est pour ça que Sorbonne Université a repris cette date de 1257, puisque nous ne faisons pas une université sans étudiants, comme date, si vous voulez, d'origine profonde de notre fondation.
Et juste un mot, au départ c'est donc un enseignement théologique. À partir de quand la Sorbonne devient un enseignement pluridisciplinaire?
Alors ça s'est fait au cours du temps, suivant un modèle qui est celui de toutes les universités d'Occident, avec un élargissement progressif des disciplines. La médecine est arrivée. On ne peut pas dire les sciences au sens où nous l'entendons aujourd'hui, on parlerait plutôt de technique. Et évidemment, ce qui relèverait aujourd'hui de la littérature, les ancêtres de nos spécialistes de linguistique, c'est-à-dire la rhétorique. Bon, cet enseignement, il s'est ainsi progressivement agrandi, si je puis dire, diversifié, tout au long du Moyen-Âge. Et puis est arrivée la Renaissance, et c'est là où je dois dire l'université de Paris, qu'on appelait déjà à ce moment-là la Sorbonne, même si le collège de la Sorbonne n'était qu'un des collèges de cette université, l'université de Paris est restée un peu en arrière de l'évolution des disciplines. C'est pour cela que le roi de France a créé le Collège de France, qui était un lieu où l'on pouvait enseigner les langues anciennes et pas simplement le latin. Et puis également un certain nombre de langues contemporaines, comme l'arabe par exemple, qui n'avaient pas droit de cité dans l'université de Paris. Tout ça a subsisté avec pas mal de vicissitudes jusqu'à la Révolution française, où là il y a eu ce que je dirais un grand coup de balai. L'Assemblée nationale et la Convention ont supprimé l'Université de Paris et d'ailleurs tous les collèges partout en France, puisque cette Université de Paris avait essaimé dans l'ensemble des territoires de ce qu'était alors le Royaume de France. Et il a fallu attendre Napoléon pour que l'on recrée une université à Paris qui, elle, est vraiment directement l'ancêtre, enfin l'aïeul de Sorbonne Université et des autres universités parisiennes aujourd'hui, et d'ailleurs des autres universités françaises, puisque l'Université de Paris était la première d'entre elles, avec un enseignement de toutes les disciplines qui sont aujourd'hui enseignées dans nos universités, les sciences, les lettres, le droit, la médecine, et encore la théologie, qui n'a quitté définitivement la Sorbonne que à la fin du 19e siècle et surtout après 1905, c'est-à-dire après la loi de séparation de l'Église et de l'État.
C'est une histoire fascinante, évidemment, c'est une histoire passionnante, l'histoire de ce lieu, de la Sorbonne, mais on va parler également aussi de la Sorbonne en 2019, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes avec monsieur Barthélémy Jobert, président de la Fondation Sorbonne Université, qu'on retrouve dans 3 minutes.
France Bleu Paris.
Le soleil, Étienne Dao sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
C'est un nom qui rayonne, l'université, la Sorbonne, sans doute un nom, l'un des plus connus, on va dire, au monde. Il y a le célèbre bâtiment qu'on connaît tous dans le quartier latin, et puis il y a la Sorbonne qui a dépassé le 5e arrondissement. Aujourd'hui, vous l'avez compris, ce sont plusieurs facultés dans Paris, et c'est un lieu prestigieux qu'on découvre aujourd'hui avec le président de Fondation Sorbonne Université, notre invité, Monsieur Barthélémy Jobert. On ne peut pas passer mai 68, les manifs qui se propagent sur le monde ouvrier, c'est notre histoire bien sûr, on garde en mémoire les jeunes étudiants avec à leur tête un certain Daniel Cohn-Bendit devant la Sorbonne. Barthélémy Jobert, vous étiez tout petit à l'époque, hein, vous étiez en CP,
oui.
Donc vous pouvez pas vous en souvenir, mais vous connaissez l'histoire. Les répercussions sur la Sorbonne, grâce ou à cause de mai 68, c'est quoi ?
Ça a été la scission de l'Université de Paris. Il y avait à l'époque une université à Paris, même si les facultés comme la faculté de médecine, la faculté de droit étaient assez indépendantes. Mmh. Et le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, Edgar Faure, a été chargé par le président Pompidou de faire une loi, qu'on appelait la loi Faure, qui a créé plus d'une dizaine d'universités à Paris, qui sont le résultat de cette scission de l'Université de Paris. Alors, c'est les universités à numéro, Paris 1, 2, 3, 4, 5, etc., qui se sont faites sur des critères qui étaient, il ne faut pas se le cacher, en partie politiques. Les gens du même bord se sont retrouvés ensemble. Il ne faut pas oublier que 1968 a été un grand traumatisme pour mes prédécesseurs. Et en même temps, sur, et c'est le plus important, des critères disciplinaires. Disons que certaines universités se sont faites sur la volonté de garder ensemble une identité disciplinaire forte. Donc vous avez des universités de droit, des universités de lettres, des universités de sciences. Et puis certaines ont voulu jouer le jeu déjà d'une plus grande pluridisciplinarité. Mais ces universités qui ont une très forte identité et qui sont celles dans lesquelles, vous l'avez dit, moi j'ai étudié et j'ai après travaillé, ont trouvé leurs limites. Disons ces 20 dernières années, dans un processus que nous connaissons bien, qui est celui de la mondialisation, qui touche aussi des universités. Partout ailleurs dans le monde, les universités sont vraiment universelles, c'est-à-dire qu'elles regroupent des disciplines de tous ordres qui dialoguent entre elles, aussi bien pour la formation que pour la recherche, répondant ainsi aussi bien aux besoins de notre public premier, c'est-à-dire celui des étudiants, mmh. mais également aux besoins de la société et aux attentes du monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qui a guidé à la fois les choix de nos tutelles, les choix gouvernementaux, d'ailleurs toutes orientations politiques confondues. Hein, c'est une, il faut le souligner, c'est une orientation qui a été lancée par Valérie Pécresse, mais suivie par tous les gouvernements, de droite comme de gauche, depuis donc une quinzaine d'années, visant à recréer en France, pas simplement à Paris c'est un peu plus compliqué, des universités sur le modèle international, c'est-à-dire des universités pluridisciplinaires, et aussi à insister, je voudrais vraiment mettre l'accent sur ça, des universités de recherche, c'est-à-dire où la recherche est au cœur du projet, à la fois pour les enseignants-chercheurs et pour, qu'il y a également des chercheurs purs, hein. Nous travaillons avec le CNRS, l'INSERM, l'INCa, l'Institut sur le cancer, etc., et les étudiants. Et c'est dans ce processus que nous avons créé Sorbonne Université, donc fusion d'une université de sciences et de médecine et d'une université de lettres et de sciences humaines. Alors, ce mouvement, nous avons été les seuls à le faire à Paris. Il existe également en région. Les grandes universités régionales se sont toutes recréées à partir d'universités. Le phénomène avait été le même. J'ai enseigné à Grenoble. Il y avait Grenoble 1, Grenoble 2, Grenoble 3, avec les sciences et la médecine d'un côté, le droit et un certain nombre de sciences humaines de l'autre. C'est là où j'étais. Et puis, les lettres et les humanités d'un troisième. L'université de Grenoble s'est regroupée un peu avant nous, un an avant nous, et existe aujourd'hui comme l'université Aix-Marseille, l'université de Strasbourg, une université à Bordeaux, etc. Je crois que c'est très important parce que cela remet vraiment au cœur de la formation et de la recherche le système universitaire, ce qu'on avait un peu tendance à oublier en France.
On va parler de la recherche tout à l'heure parce que effectivement, vous avez fait une levée de fonds pour développer cela. On en parlera. Tout le monde peut y participer. Juste un mot. Comment on devient président de Sorbonne Université, de la Fondation Sorbonne Université? Comment on devient?
Ça n'est pas tout à fait la même chose.
Bon, d'accord.
Il y a un président de Sorbonne Université qui est Jean Chambaz, voilà, qui est l'ancien président de l'université Pierre et Marie Curie, donc une de nos deux universités fondatrices. Ce président, il est élu par un conseil d'administration qui lui-même élu par les personnels enseignants-chercheurs, les personnels administratifs et les étudiants de l'université, avec un certain nombre de membres extérieurs qui sont soit nommés par des autorités comme le CNRS, par exemple, soit ou la région ou la ville, soit sont élus par les membres élus du conseil d'administration. Bon, c'est un phénomène un peu compliqué. D'accord. C'est comme ça que moi, par exemple, j'avais été élu, c'était le même système, président de l'université Paris-Sorbonne. Le président de la Fondation Sorbonne Université, il est élu par le conseil d'administration de la Fondation Sorbonne Université, qui est lui-même issu de choix du conseil d'administration de Sorbonne Université, mais également des trois doyens de la faculté des lettres, de sciences et d'ingénierie et de médecine de Sorbonne Université, avec également un certain nombre de membres extérieurs que nous choisissons.
Aujourd'hui, en 2019, le nom Sorbonne Université, Fondation Sorbonne Université, il rayonne, c'est un nom très important. Combien d'étudiants? Ça regroupe à peu près combien d'étudiants?
Un peu plus
ici
de 55 000 étudiants, avec la première faculté, c'est la faculté des lettres, avec un peu plus de 22 000 étudiants. Après vient la faculté des sciences, un peu plus de 20 000 étudiants et 12 000 étudiants à peu près en médecine. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est d'abord que nous avons une très forte proportion d'étudiants étrangers, venus du monde entier, qui aussi autour de 20%, disons entre 18 et 20%, suivant les facultés, suivant les disciplines. Et puis, nous avons également, plus que d'autres universités, un très grand nombre de nos étudiants qui sont en doctorat ou, pour les médecins, en internat. C'est-à-dire que nous avons une proportion plus forte d'étudiants à bac plus 5, disons, que d'autres universités. C'est ce qui fait de nous une université de recherche. Par exemple, il y a plus de 1000 étudiants en doctorat à la faculté des sciences, et les chiffres sont à peu près comparables à la faculté des lettres.
Et combien d'enseignants pour bien
alors là,
comprendre
c'est très,
ça
là, c'est très différent. Il y a à peu près, disons, 5600 enseignants, chercheurs. Pour l'ensemble de l'université, il y en a 4 fois plus en sciences qu'en lettres. Pour prendre les chiffres de manière un peu globale, c'est le résultat de l'histoire, c'est le résultat aussi du fait que quand vous faites un parcours en sciences, une grande partie se fait dans l'expérimentation et que là, vous avez besoin d'un encadrement beaucoup plus fort qu'il ne peut l'être en lettres. Bon. Je vois bien, si vous voulez, entre les thèses, que la façon dont moi je dirige les étudiants en doctorat qui font leurs études avec moi et la façon dont procèdent mes collègues en sciences.
On l'a compris, il faut des enseignants, il faut des chercheurs.
On n'en a jamais assez.
On en a jamais. Des étudiants, on n'en a jamais assez. Puis il faut des moyens pour financer tout cela, la recherche notamment. Bienvenue au futur, c'est une campagne qui va contribuer à cela. On en parlera dans un instant. Ainsi que, je l'ai précisé au début, les Césars des lycéens qui va se dérouler justement dans ce bâtiment qu'on connaît tous, la Sorbonne. Ce sera juste après Accès Privé, la suite de notre émission. C'est un rendez-vous quotidien avec notre reporter. Elle s'appelle Muriel Giordan. Elle a décidé aujourd'hui de nous faire découvrir les entrailles. Alors là, on change de quartier. On va aller découvrir les entrailles d'une des plus anciennes salles de spectacle à Paris, le Casino de Paris. Et on retourne à la Sorbonne tout de suite après.
France Bleu Paris.
Puisqu'au matin, il me faudra partir. Que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre. Ce que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit ce que je n'ai jamais dit. Puisque demain je ne pourrai plus rire, loin de ce monde pour de bon. Je voudrais qu'on me donne un dernier soupir pour juste sentir les saisons. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre. Ce que je n'ai jamais dit. J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les yeux. Pour ne plus être l'ombre de moi-même, que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je vous. C'est ma dernière lettre. Ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit.
Ma dernière lettre, David Hallyday, Accès Privé, juste après ça.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu.
Avec le Crédit Mutuel qui donne le la à la musique, France Bleu vous plonge pour un week-end dans le monde des enfoirés. Vendredi soir, dès 21h, on trace en exclusivité radio pour le concert 2019 des Enfoirés, enregistré à Bordeaux. 40 artistes sur France Bleu et TF1 pour 3 heures de show. Et samedi et dimanche, pour le week-end de collecte des restos dans les grandes surfaces, tous les titres de l'album 2019 de la bande à Coluche seront sur France Bleu. Avec francebleu.fr, France Bleu, radio partenaire des Enfoirés, élu par les bénévoles des Restos du Cœur.
France Bleu Paris.
Midi 32, vous écoutez France Bleu Paris et c'est tout de suite accès privé. Voilà Muriel Jourdan qui nous dévoile comme chaque jour un lieu interdit au public, un lieu où le public n'a pas accès. La voici dans les entrailles du Casino de Paris, cette célèbre salle de la rue de Clichy dans le 9e. Autrefois temple du music hall, elle est aux côtés de son propriétaire Frédéric Jérôme. Elle a pu accéder au dessous du casino.
Ah, ces escaliers, des coulisses, dans les salles de spectacle, toujours étroits, qui nous mènent, on ne sait pas bien vers où. Hein, là, on descend avec Frédéric Jérôme, le directeur du Casino de Paris. J'ai l'impression qu'on va dans les dessous, là.
Exactement. Ah, là. Alors, en plus, il n'y a pas de lumière, attention.
Ah oui, il n'y a pas de lumière, mais on voit un petit peu.
Là, vous êtes sous la Seine. Et sous la Seine, alors, ça, c'est un matériel qu'on n'utilise plus, mais c'est impressionnant, on dirait une usine.
Je vais prendre ma torche.
Ce sont des on appelle ça des tampons, c'est des ascenseurs qui permettaient de faire apparaître sur la Seine des décors préinstallés, voilà, dans les dessous. Donc vous voyez, c'est une Seine bis qui se trouve sous la Seine et qui permet de faire une apparition sur le plateau, voilà.
Le votre souvenir là tout de suite de décors particulièrement impressionnants.
C'était, je pense, il y a un moment, hein, c'était Peter Pan, c'est dans les années 90, un très très beau spectacle où il y avait sur scène vraiment le bateau, enfin tous les grands éléments qui font appel à l'imaginaire de Peter Pan, et y était. Il y avait les enfants qui volaient des vols incroyables, ils volaient au-dessus de la ville de Londres de nuit, c'était fabuleux, c'était féerique. Ensuite vous aviez le bateau, effectivement avec le capitaine Crochet, mais le bateau, je sais pas comment ils avaient fait tellement c'était magique, quoi. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un grand bateau, avec les mâts, les drisses, les voiles, c'était hallucinant. Pour moi, c'est le plus beau décor qu'on ait eu, en tout cas en rendu, parce qu'après, on a eu encore récemment, l'année dernière, Priscilla Folle du Désert, où il y avait un gros gros décor qui était très très réussi.
Ah oui, le bus.
Le bus, voilà, le fameux bus qui roulait avec avec la poussière. Et ça. Bon, ça c'était impressionnant, mais ça faisait appel à des nouvelles technologies. Peter Pan, c'était vraiment de la machinerie à l'ancienne.
Le Casino de Paris existant depuis la fin du 19e siècle, est-ce que il y avait aussi des décors assez conséquents qui étaient acheminés de cette même manière-là?
Ah ben oui, surtout la spécificité de cette salle, c'est une salle de revue. Donc les revues, par essence, c'était que des tableaux. Et que des tableaux, c'était que des décors. Donc c'était rempli de décors qui faisaient des apparitions. Les plateaux que vous voyez là qui montent pour apparaître sur scène, ils installaient un décor, ils l'enlevaient, ils en mettaient un autre. Enfin, c'était perpétuel. Et je crois que sur une revue, il y avait jusqu'à 100 personnes qui travaillaient. Donc c'était et des fois, ils faisaient deux, voire trois séances dans la journée.
Est-ce que récemment, vous avez demandé un truc de dingue? Vous avez dit non mais là, c'est pas possible, c'est trop.
C'est un métier où on est là pour faire rêver les gens. Donc le but des créateurs et des artistes, c'est d'inventer des trucs fous, voilà. Et souvent on est souvent stoppé par des questions de budget. Donc c'est vrai que souvent c'est plutôt ça qui freine que les possibilités, parce que très sincèrement aujourd'hui on est capable de faire énormément de choses, des choses les plus folles avec les magiciens. Des fois on voit des trucs insolites. L'année dernière on avait ici le Enzo qui faisait disparaître un hélicoptère. Donc vous aviez un vrai hélicoptère sur scène qui disparaissait et un impossible pour le spectateur de savoir comment c'était fait, c'était magique. Donc il y a des trucs comme ça, oui, ben, c'est aussi ça qui fait le charme de notre métier, c'est que, enfin, pour moi qui suis là depuis très longtemps, c'est que c'est les spectacles qui me font voyager, et voyager mon imaginaire, et voyager. Chaque spectacle est une aventure complètement différente.
Les magiciens, ils dévoilent jamais leurs trucs, mais vous êtes obligé de les connaître.
Alors, je suis pas obligé, justement. Je pourrais, mais je veux pas, parce que je veux garder mon âme de spectateur et d'enfant. Et en fait, moi, j'ai pas souhaité le faire parce que je veux garder aussi ce côté, ce que moi-même ça m'impressionne. Donc, vous savez, c'est pas bon quand on sait comment ça se passe.
Voilà. Merci Muriel, merci beaucoup. On poursuivra la visite des coulisses du Casino de Paris avec la découverte du vitrail de style Art déco qui orne la façade du casino. C'est pour demain.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petitguillot.
Midi 36, si vous nous rejoignez, France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on s'intéresse à la plus célèbre des universités, à l'un des monuments les plus anciens de la capitale. Pas tant que ça d'ailleurs. La Sorbonne dans le quartier latin, non pas tant que ça. Le 13 mars aura lieu dans ce bel endroit, la remise du César des lycéens, dans ce lieu prestigieux, en présence du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, du président de l'académie. Et nous sommes avec le président de la fondation Sorbonne Université, monsieur Barthélémy Jobert. Je rappelle que César des lycéens, lycéens. C'est une raison, une récompense, bien sûr, en plus des autres Césars. Des films, 7 ont été sélectionnés. 2000 lycéens en terminale sur l'ensemble du territoire ont été constitués en jury. Et ils récompenseront, en l'occurrence, le film de Xavier Legrand, Jusqu'à la garde. La cérémonie se déroulera dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Ce genre d'événement, cette remise des Césars des lycéens à la Sorbonne, ça représente quoi pour vous, Monsieur Jobert? C'est un lien avec les lycéens?
C'est un lien avec les lycées qui est un lien évidemment très fort. Les lycéens, ce sont nos futurs étudiants.
Eh oui.
Alors, cette cérémonie, elle est organisée par le rectorat de l'Académie de Paris et ce sont donc toutes les universités de Paris, pas simplement Sorbonne Université, qui sont impliquées dans cette maison commune qui est aussi le bâtiment de la Sorbonne historique, même si Sorbonne Université, avec la faculté des lettres, en occupe un tout petit peu moins de la moitié. Mmh. Le reste étant dévolu soit à la chancellerie des universités, au rectorat, soit à quelques autres universités parisiennes. Mais Sorbonne Université a aussi une politique en direction des lycéens. Alors, quelque chose qui est évidemment pas très visible, mais qui est très important, c'est toute notre activité dans l'orientation des lycéens. Nous avons des professeurs, des étudiants qui vont dans les lycées expliquer ce que c'est que de faire des études à l'université, ce que c'est que de faire des études en histoire, en physique, en médecine, etc. Pour faciliter l'orientation des lycéens, nous avons évidemment des journées portes ouvertes. Et puis nous avons des activités beaucoup plus spectaculaires. J'en citerai deux. Il y en a une qui n'est peut-être pas très connue à l'extérieur, mais qui est très importante, c'est notre concours de poésie. Nous avons un concours de poésie qui se termine, là aussi, pas dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Richelieu, qui est le grand amphithéâtre de la faculté des lettres, qui est plein à craquer, il y a plus de 800 places, de lycéens ouais. Et également d'adultes. Rassemblés autour de la poésie, c'est un très très beau moment.
C'est quand ?
C'est généralement au printemps.
D'accord.
Et puis, il y a un événement que nous avons créé il y a 3 ans maintenant, et qui a un succès de plus en plus grand, qui est la dictée de la Sorbonne.
Ah oui, bien sûr.
Un concours d'orthographe. Ouais, ouais. Et là aussi, de voir des lycéens, parce que malheureusement, les professeurs n'ont pas le droit de concourir. Donc, je n'ai jamais pu... Enfin, je l'ai faite, mais disons sans...
Sans faute ?
Sans... Quelques-unes quand même. Bon, mes collègues linguistes savent ménager des choses trappes avec 2 P ou 1 P, avec des S ou sans S.
Ouf.
Mais les lycéens sont au rendez-vous. C'est très impressionnant de voir tous ces jeunes rassemblés, là encore, dans cet amphithéâtre Richelieu, donc plusieurs centaines, avec également, il y a des catégories d'adultes non enseignants, qui sont là pendant toute une journée à travailler autour de l'orthographe, ce qui montre que nos valeurs, ce que nous faisons, rayonnent bien au-delà de notre public d'étudiants, et vraiment, les lycéens, ce sont des futurs étudiants que nous voulons absolument attirer chez nous, attirer les meilleurs, nous faisons tout pour ça.
Pour en savoir plus, évidemment, il y a un site internet, c'est très simple, sorbonne-université.fr. Et dans un instant, on va donc s'intéresser à cette levée de fonds. Bienvenue au futur.
France Bleu Paris. France Bleu. Sane, we remember all the danger we came from.
expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me all the loss on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that loss on you? Oh,
LP Lost on You sur France Bleu Paris.
France Bleu.
France Bleu et Détour en France vous invitent à la découverte des régions et de leur patrimoine. Monuments, villes et villages, paysages d'exception, artisanat, gastronomie et traditions. Pour organiser vos séjours, apprendre et explorer une région à votre rythme, retrouvez dans Détour en France tous les circuits, balades, bonnes adresses et rendez-vous insolites et gourmands. Ce mois-ci, dans Détour en France, la Provence, de Toulon au Verdon, en passant par les Îles d'Or, les villages du Massif des Maures, Cannes et les sentiers de l'Esterel. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu. France Bleu présente Pascal Obispo, de retour pour une tournée exceptionnelle dans toute la France.
Salut, c'est Pascal Obispo sur France Bleu.
Pascal Obispo, une nouvelle tournée riche de ses plus grands succès, des titres de son nouvel album et de quelques surprises.
J'ai hâte de vous retrouver en concert dans votre ville.
Pascal Obispo. En tournée dans toute la France et à Paris, les vendredis 22 et samedi 23 novembre au Zénith de Paris-Lavillette. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Suite et fin de France Bleu Paris découverte. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce mot que tout le monde connaît, à ce lieu que tout le monde connaît, la Sorbonne. Et nous sommes avec le président de la Fondation Sorbonne Université, M. Barthélémy Jobert. Question toute simple, poursuivre ses études à la Sorbonne, comme on dit, ça veut dire quoi en 2019, M. Jobert? Quelles sont les valeurs que développent toutes ces facultés, ce nom, la Sorbonne? Est-ce que nous sommes par exemple... Écoutez, je vais vous dire une chose, je me demandais, mais alors la Sorbonne, l'université, les universités, les facultés à Paris, par rapport aux grandes universités américaines, dont on dit toujours qu'elles sont extraordinaires, tu vois, il y a une image, ou alors ces grandes écoles anglaises, nous à Paris, ces facultés, représentées par ce nom, la Sorbonne, elles ont quoi de plus?
Elles sont de toute façon au même niveau. D'accord. Aussi bien en ce qui concerne les enseignants-chercheurs qu'en ce qui concerne les étudiants. Nos meilleurs étudiants, j'ai enseigné aux États-Unis, je sais ce dont je parle, nos meilleurs étudiants sont parfaitement au niveau des meilleurs étudiants des grandes universités américaines, des grandes universités anglaises ou allemandes. Il ne faut jamais oublier les universités allemandes
aussi, ouais,
ou les grandes universités, les autres grandes universités européennes ou les grandes universités asiatiques avec lesquelles nous avons également d'importantes collaborations. Donc, les grandes universités françaises et Sorbonne Université en particulier, les grandes universités de recherche sont au niveau de ces grandes universités internationales. Après, ce que nous avons de plus, c'est très simple, vous l'avez dit vous-même, hein, nous sommes à Paris.
Bon ben voilà, tout est dit, tout est résumé, effectivement on a la chance d'être à Paris. Et notamment je pense à tous ces étudiants. Monsieur Barthélémy Jobert, je parlais tout à l'heure de cette campagne de levée de fonds, on peut la retrouver très facilement en cliquant, en allant sur le site internet de la Sorbonne, de l'université...
Et de
la Fondation, pardon. Bienvenue au futur, c'est une levée de fonds qui va servir à quoi? Elle a été lancée en juin dernier.
Elle a été lancée en juin dernier. C'est la plus importante campagne de levée de fonds pour une université française, également pour une université européenne en dehors des grandes universités britanniques, Oxford, Cambridge ou l'université de Londres dont que nous avons évoqué tout à l'heure.
Oui.
Cette campagne, donc, elle vise à lever 100 millions d'euros d'ici 3 ans. Nous avons commencé en secret, c'est ce qu'on appelle la campagne silencieuse, il y a déjà un peu plus de 2 ans, et nous avons déjà levé la moitié de cette somme. Alors, pour quels objectifs ? Les objectifs, ils rejoignent ceux de l'université, bien entendu. C'est la recherche, c'est la formation et c'est l'université en tant que telle. La recherche, cela nous permet de financer plus vite et mieux nos grandes directions de recherche, notamment celles qui sont au cœur du projet de Sorbonne Université, la recherche interdisciplinaire qui répond aux grands enjeux du monde d'aujourd'hui, aussi bien en médecine qu'en sciences humaines. On ne peut pas faire abstraction de la médecine ou des sciences humaines ou des sciences pour chacun de ces champs disciplinaires. Je pense par exemple au cancer. Nous venons d'être labellisés une des quelques très rares universités en France par l'Institut National de Recherche sur le Cancer. Nous sommes un des grands centres de recherche sur le cancer, ce qui a emporté la décision du jury international il y a un peu moins d'un an pour nous labelliser. C'est le fait que nous avions une très importante dimension de sciences humaines en matière d'éthique, en matière de philosophie, en matière d'implication des patients, en matière de communication. Et nous étions les seuls à avoir ça par rapport aux autres grandes universités, ou je pense à l'Institut Curie, par exemple, ou à l'Institut Gustave Roussy, qui, eux, étaient vraiment très forts. Nous le sommes autant que en recherche médicale, mais moins sur l'environnement, vous voyez, humain et social de ces recherches. Donc, financer la recherche, financer également les études de nos étudiants. Nous mettons en place tout un système de bourses. Alors, qui existe déjà, mais évidemment, nous voulons les renforcer, nous voulons les étendre. Donc, il y a des bourses qui sont traditionnellement dirigées vers des étudiants méritants, comme on dit. Mais c'est ce que nous appelons notamment passeport pour le master, que nous faisons pour l'instant en lien avec une entreprise, Safran, puisqu'il y a des tuteurs qui viennent de l'entreprise et qui sont chargés individuellement d'aider les étudiants à mûrir leur projet professionnel. Nous offrons des bourses importantes, 11 000 euros par an, qui sont donc financées par Safran, pendant 5 ans, pour que ces étudiants, dès le baccalauréat, puissent se projeter à un niveau Bac plus 5. La seule obligation qu'ils ont, c'est de ne pas redoubler. Pour l'instant, le programme a 6 ans, aucun ne l'a fait, et les résultats sont tout à fait remarquables en termes d'insertion professionnelle et de projet de ces étudiants. Alors, nous déclinons ce principe pour les femmes dans les sciences. Il y a encore trop peu de femmes qui se dirigent dans des études et dans des carrières scientifiques. C'est ce que nous appelons les passeports pluriels. Nous développons également ça pour les sportifs de haut niveau, car nous avons une dizaine de sportifs de haut niveau labellisés
en préparation pour les JO.
Par l'INSEP. Pour les JO, c'est ce qu'on appelle passeport pour les JO de Tokyo, qu'on va évidemment étendre pour les Jeux Olympiques de Paris. Il ne faut pas oublier que le baron de Coubertin a relancé le mouvement olympique dans les locaux de la Sorbonne.
Ah bon ?
Et oui, dans les locaux historiques de la Sorbonne qui venaient d'être reconstruits. Et nous avons, dans nos sportifs de haut niveau, des succès, pas plus tard qu'avant-hier, puisque le médaillé de bronze des championnats d'Europe indoor, comme on dit, de Dublin, Aurel Manga, aux 60 mètres haies, est un étudiant de Sorbonne Université, mais nous avons également... celui qui a fait la plus mauvaise place, malheureusement, aux Jeux Olympiques de Tokyo, le plongeur qui était 4e. Non, donc nous avons également donc cette orientation vers ces sportifs de haut niveau. Nous venons de mettre en place, pas plus tard que vendredi dernier, vous voyez, c'est une nouvelle toute chaude, un système d'aide à la mobilité pour permettre aux étudiants en master de partir à l'étranger pour leur séjour de recherche en sciences, en lettres et également en médecine. Donc ça, c'est la seconde grande direction, les aides pour les étudiants. Et puis, il y a tout ce qui vise à renforcer nos équipements. Alors, c'est d'abord l'immobilier, c'est la rénovation de nos bâtiments historiques, partout en France, parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez dit que nous étions dans le quartier latin, mais nous sommes dans tout Paris, rive droite et rive gauche, et nous sommes également en région. N'oublions pas que Sorbonne Université est la première université en France, et l'une des toutes premières dans le monde, à être spécialisée dans les questions maritimes. Nous avons 3 stations marines d'études des milieux marins, des biotopes, et qu'on va évidemment étendre aux sciences humaines, comme l'archéologie sous-marine ou la mer, on a un institut de la mer dans les tuyaux, 3 stations maritimes à Roscoff, à Villefranche-sur-Mer et à Banyuls. Et il y a des projets, par exemple, pour Roscoff, dont j'aurai l'occasion éventuellement de parler sur France Bleu Bretagne.
Exactement, vous serez toujours le bienvenu.
Et alors, puis, il y a des équipements, pardonnez-moi, je termine, des équipements scientifiques, là encore, de très haut niveau, comme le microscope atomique que nous voulons, que la Fondation va permettre enfin à l'université, à notre département de physique d'acquérir. Nous serons il y a moins de 5 universités dans le monde qui disposent de cet équipement. Et nous serons quasiment les seuls en Europe.
Vous pouvez contribuer à tout cela en allant tout simplement sur le site fondationsorbonneuniversité.fr et ça s'appelle Bienvenue au futur, que je vous souhaite formidable, monsieur Jobert. Merci d'être passé par ici.
Merci.
À bientôt.